Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix, je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ?
Bonjour, ça va bien Olivier, bonjour à tous.
Un petit peu enrhumé là moi aujourd'hui.
Oui, mais bon. On s'en gratouille la gorge.
Oui, on est pas mal dans ce cas-là, mais ça va aller, on va passer une bonne année.
Une bonne journée.
Presque une bonne heure ensemble. Pendant cette heure où nous partagerons comme d'habitude vos expériences de vie, car votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse. Aujourd'hui on va parler de l'alcool, qui est la première cause de mortalité chez les jeunes de 15-30 ans en France. Et il fait partie, cet alcool, de leur quotidien. Selon un rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, un quart des garçons et une fille sur cinq ont déjà été ivres deux fois ou plus à l'âge de 15 ans. Depuis quelques années, le phénomène du binge drinking, ou biture express si vous préférez, s'est répandu. Une pratique qui consiste à boire beaucoup et vite pour être saoul rapidement. Quel rapport à l'alcool ont les jeunes ? Quels sont les risques pour de jeunes organismes ? Et quels ravages cela fait-il sur ces organismes ? L'alcool chez les jeunes, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et comme chaque jour, vous le savez, on vous écoute au 39 21 50 centimes la minute. On vous lit sur Twitter, hashtag Europe 1. On vous lit via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Zélie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Zélie. Vous êtes là ? Ah, nous avons perdu Zélie. Donc, juste le temps de patienter quelques instants pour que nous recomposions. Tenez, Ombline, on va parler de l'alcool chez les jeunes, justement. Quelles étaient vos habitudes, vous, lorsque vous aviez 15, 16 ans ? Est-ce que c'était quelque chose qui était répandu dans votre entourage ou est-ce que vous-même, vous consommiez de temps en temps ? À quel âge vous avez commencé ?
Moi, je pense que j'ai commencé assez tard, parce que j'étais une fille sage vers 18 ans. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voyait. Et en fait, ce qu'on observait, et moi, ce qui me faisait très, très peur, c'est la vitesse à laquelle on pouvait ingurgiter des grandes quantités d'alcool pour juste sous prétexte que sans alcool, on pouvait pas véritablement s'amuser. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et du coup, de fait, je pouvais pas prendre part à cette partie de l'organisation de la fête le soir. Mmh. Mais c'est ça qui je trouve, c'est un peu effrayant.
C'est souvent lié à l'éducation qu'on a reçue.
Oui, peut-être, ouais.
Mais quoi qu'il arrive...
Être entraîné par les autres aussi.
J'avais envie de vous dire l'éducation, mais lorsqu'on a 15 ans, on est souvent tenté par les copains, les copines.
Bah oui, bien sûr.
Et Zélie est revenue. Qu'en pensez-vous d'ailleurs, Zélie ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Je vous en prie, à 15 ans, est-ce que vous étiez dans le cas d'une fille sur cinq en France aujourd'hui qui déclare avoir au moins été sous, en tout cas avoir pris ce qu'on appelle une biture express, deux fois ?
Alors oui, même, je peux le dire honnêtement, même un peu plus. Hein, moi, j'ai commencé à boire, je devais avoir entre 13 et 14 ans à peu près. Et on sortait quasiment tous les soirs. Enfin, pas tous les soirs, mais je veux dire tous les week-ends. Donc oui, j'en fais largement partie.
À l'âge de 13 ans, Zélie, dans quel cadre vous avez commencé à boire de l'alcool ?
C'était surtout, en troisième, on commence à découvrir ce que c'est tout l'entourage aussi, toutes les pressions un peu, des grands, entre guillemets. C'est vraiment venu avec une bande d'amis. On s'est mis à sortir le vendredi soir dans les rues et forcément, les bars, au final, ils acceptent quand même un peu l'alcool pour les moins.
Et finalement, en fait, c'est plus au lycée que votre consommation s'est développée ?
Oui, ça s'est monté avec l'âge. Au final, bien sûr, plus on grandit, plus on personne et plus, on va dans des moments de soirée, des événements.
Alors, quel effet ça vous fait de boire beaucoup, quel effet ça vous faisait plutôt à cet âge-là ?
C'est vrai que comme on le dit à chaque fois, l'alcool, c'est la désinhibition. On est plus joyeux, on a envie de parler avec un peu tout le monde. Je pense que ça permet aussi ça permet malheureusement, d'enlever un peu des frontières entre les gens. Je pense que c'est ça que je ressentais à l'époque. J'avais pas mal de complexes. Ça me permettait d'aller vers les gens, en fait.
D'être désinhibé. En fait, vous avez 20 ans aujourd'hui, me semble-t-il.
C'est ça, exactement.
Est-ce que aujourd'hui, il vous arrive encore de boire jusqu'à, par exemple, vous mettre en danger et ne plus savoir ce que vous faites ?
Alors moi non, mais il est vrai que dans mon entourage, des personnes même un peu plus âgées que moi, eux peuvent boire dans, jusqu'à des situations un peu extrêmes. Moi, c'est plus de l'alcool récréatif, si je peux me permettre de le dire.
Récréatif aujourd'hui, parce que on a l'impression, en vous écoutant parler, que vous avez appris de cette consommation d'alcool. Est-ce que je me trompe ?
Oui, ça peut être une forme. C'est vrai que vous décelez bien les choses. Bah, c'est vrai qu'il y a, il y a deux formes d'alcool, d'autres manières de boire. Il y a la manière festive et la manière où c'est plus de l'alcoolisme mondain, entre guillemets. Et c'est vrai que maintenant, alors que j'ai seulement 20 ans, je me situe plus dans l'alcoolisme mondain, quoi.
D'accord. Vous tenez une association culturelle en Normandie et vous avez remarqué qu'avec vos collègues, vous buvez en travaillant. Ça arrive souvent, ça ?
Alors oui, justement, c'est là aussi ce pourquoi je témoigne, c'est que je me suis rendu compte que c'était au samedi quasiment. C'est des moments assez anodins où voilà, on est sur nos ordinateurs en train de travailler et au final, un verre de rouge, deux verres de rouge et une bouteille à trois, ça.
Alors, on va continuer à parler avec vous, Zélie. On va rétablir la communication qui est un petit peu compliquée. Mais on va justement continuer à parler de ce qu'est votre vie aujourd'hui et de ce rapport à l'alcool et devenu dans le milieu professionnel, hein, dans le cadre de cette association. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Nous parlons de la consommation excessive de l'alcool chez les jeunes. Quels sont les risques ? Vous êtes concernés ? Vous nous racontez au 39-21. Vous nous écrivez aussi sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour nous appeler. Nous parlons de l'alcoolisation souvent aiguë chez certains jeunes adultes et adolescents. L'alcool est un problème pour vous. Vous réagissez aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Une consommation d'alcool qui est arrivée assez tôt, hein, dans la vie de Zélie, que nous avons en ligne. Oui. Zélie, qui nous parlait de cette consommation qui avait commencé à 13 ans, puis qui ensuite était passée par voilà, des contours un peu dangereux, surtout chez des personnes qu'elle connaissait autour. Et puis aujourd'hui, vous êtes donc dans une association culturelle en Normandie, et vous dites remarquer qu'entre collègues, eh bien, bon, bah, un petit verre de rouge, deux petits verres, trois petits verres, quatre petits verres, et finalement, on boit tous ensemble, et que c'est devenu une habitude. Est-ce que l'effet de groupe a une incidence sur votre comportement ?
Je dirais que l'effet de groupe, il se ressent surtout le week-end, quand on va aller plutôt dans le centre-ville. Mais au final, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on boit quand on travaille. C'est vraiment, ouais, voilà, c'est la sensation où on trinque ensemble, c'est plus convivial. Donc oui, finalement, la sensation de groupe, elle est là. Hein.
Et justement, en fait, lorsqu'on prend l'apéro, alors tous les jours, vous buvez comment, en fait ? Le midi à table ou ça commence juste avant de quitter le boulot ? Il y en a un qui amène une petite bouteille. Cette consommation, elle se fait dans quel cadre exactement ? Elle commence dans quel cadre ? Elle finit comment ?
Alors, elle commence plutôt en fin de soirée, donc vers 17h, 18h. Ouais. Le moment où justement on se rejoint avec mes collègues pour travailler sur les ordinateurs, parce que c'est un travail autre que celui qui est fixe normalement. Ouais. Donc, on travaille chez nous. Et ça commence là, vers 17h, 18h, à peu près le mardi ou mercredi, quasiment jusqu'au week-end, en fait.
Et donc, cette consommation d'alcool, alors, j'ai l'impression qu'il faut séparer celle de la semaine de celle du week-end.
Parce que
on est clair là-dessus.
Oui, bien sûr, d'accord. C'est pas le même enjeu,
d'accord. Cette consommation d'alcool, par exemple, la semaine, ça s'élève à combien par jour ?
Peut-être deux verres par jour.
Deux verres de rouge par jour ?
Bah ouais, à partir du mardi, mercredi, jusqu'au vendredi, quoi.
Deux verres de rouge par jour, ça n'est pas non plus énorme.
Non, bien sûr, mais c'est sans compter voilà, l'alcool plutôt festif du week-end. D'accord. C'est là où je trouve qu'à mon âge, c'est peut-être un peu...
Mais justement, le week-end, cet alcool festif, donc ça se transforme comment ?
Ça va être autour d'une plus grande table avec plus de monde qui, eux, ont une consommation sûrement plus importante que moi, où ça va être aussi de l'alcool plus fort que du vin. Et du coup, tout s'envenime, forcément, ça part plus vite. Hein.
Qu'est-ce que vous entendez par tout s'envenime ?
Plus on va boire un verre, plus on va avoir envie d'en prendre un deuxième, plus la soirée va finir tard. Et plus, qui dit soirée qui finit tard, dit beaucoup d'alcool bu Et c'est là où ça peut devenir dangereux.
Mais est-ce que cet alcool, en fait, il est nécessaire pour passer une bonne soirée, en fait ? Est-ce que, finalement, on parlait de phénomène de groupe tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que, voilà, si vous ne buvez pas le week-end, ça, bah, finalement, on va moins rigoler ?
Non, bah, au final, c'est... Peut-être que je me voile un peu la face. Moi, j'aime pas penser ça comme ça, justement. Mais... Au final, là, je suis entourée de personnes que je connais, donc je pense qu'on n'en aurait pas besoin. C'est vraiment juste histoire de se divertir. Par contre, avec des personnes que je ne connais pas et avec qui je devrais entamer une discussion, ce serait peut-être nécessaire, sûrement, malheureusement.
Mmh. Mais justement, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de boire alors que vous n'en aviez pas envie, vraiment, et que finalement, en soirée, vous vous êtes senti obligé et que vous avez consommé quand même ?
Non, je dirais pas ça. C'est plutôt des fois il n'y a que des bières par exemple en apéro, alors que bon quelque chose de peut-être moins brut à 16h serait plus convenable.
Oui.
Mais non, je ne me force pas.
Qu'est-ce qu'il y a de moins brut que la bière parce qu'en fait je ne vois pas à 16h.
des choses plus soft, des sodas, etc. Voilà. À l'heure du goûter normalement. Ça un peu tôt.
Ah oui, oui, d'accord, ok. Parce que la bière, finalement, si mes souvenirs sont beaux, sont bons. Ça n'est pas très fort, la bière, par rapport à...
Ah oui, non, c'est pas fort, mais c'est plutôt que ça a tendance à justement être assez démocratisé et à être pris à un peu n'importe quelle heure, alors que je considère que ça reste quand même de l'alcool.
Bien évidemment, ouais. C'est de l'alcool. Mais je ne comprenais pas pourquoi vous disiez quelque chose de plus soft, en fait. Puisqu'il me semblait que la bière était quelque chose de moins, en termes de degré, en tout cas les bières communes. Ça, n'était pas d'un degré excessif, en fait.
Non, bien sûr, c'était surtout histoire de dire que commencer à boire de l'alcool en milieu d'après-midi, là, c'est aussi assez risqué.
D'accord. Est-ce que vous êtes inquiète ? Est-ce que vous vous posez des questions autour de votre consommation d'alcool, normalement ?
Alors, autour de la mienne, pour l'instant, ça va. Je considère avoir quand même un œil dessus, malgré une dépendance qui commence à naître.
Ouais.
Mais ça va plutôt être sur mes amis qui, eux, ont tendance à vraiment être dans l'excès. Et ça nous est déjà arrivé de se retrouver dans des situations qui n'étaient vraiment pas adaptées et qui étaient vraiment... Pas bien, quoi. Et à la limite de la bagarre, et des soirées qui se finissent mal alors qu'elles étaient bien parties, et tout ça à cause de l'alcool. Donc, dans ce sens-là, oui. Mm-hmm.
Bon, en tout cas, aujourd'hui, lorsque vous faites le bilan, vous, Zélie, vous vous êtes modérée, vous avez appris à modérer votre consommation d'alcool.
Je dirais que oui, parce que je conscientise chaque verre. Je sais combien j'en ai bu et ce que ça peut avoir comme conséquence. Je ne bois pas sans compter. Donc, je peux dire que pour ça, je peux être un minimum raisonnable. Mais bon, il n'empêche que ça m'arrive de temps en temps de ne plus faire attention à ça et d'avoir juste envie d'avoir cette sensation de laisser aller, quoi.
Merci Zélie pour votre témoignage au 39-21. Dans quelques instants, nous accueillerons Mylène. Elle a consulté un addictologue pour réduire sa consommation d'alcool.
Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Zélie, vous aussi ? Vous nous racontez, vous avez moins de 30 ans, votre consommation d'alcool est devenue excessive, jusqu'à mettre votre santé en danger. 39-21 pour nous raconter, pour témoigner. Adolescents, jeunes adultes, vous avalez souvent de nombreux verres d'alcool pour atteindre l'ivresse, une consommation pas forcément intense, mais continue. C'est peut-être votre cas aussi. Vous nous racontez votre histoire, 39-21, vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant, non pas avec Mylène, que nous joindrons dans quelques instants, mais avec le docteur Olivier Fan, pédopsychiatre. Bonjour docteur, vous travaillez dans un centre de consultation pour jeunes consommateurs à Paris. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour docteur. Vous travaillez donc au centre Pierre-Nicole à Paris, un centre pour jeunes consommateurs. À partir de quel moment peut-on dire qu'un jeune est dépendant à l'alcool ?
Effectivement, par rapport à la dépendance, il y a trois
Docteur, docteur, est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu quelque part, parce que je ne vous entends pas du tout, pardonnez-moi. Là, je vous entends un peu mieux. Allez-y.
Je vais me déplacer. Voilà. Effectivement, il y a une question.
Allez-y.
Vous m'entendez plus.
Ouais, allez-y pour voir.
Oui, là, vous m'entendez?
Ouais, un peu mieux.
Un peu mieux. Donc, je... Effectivement, c'est...
Non, ça ne marche pas, non. Docteur, en fait. On va... Non, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas un endroit où vous captez bien ou
Attendez, alors en fait, je suis dans le sous-sol. du coup, je vais sortir. Je suis obligé de...
Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais raconter moi une petite histoire. Et puis, le temps que je raconte moi, voilà, vous allez sortir et aller... hors des sous-sols, parce qu'en fait, je pense que vous capterez mieux dehors.
Oui.
Non, moi, je me souviens simplement, en fait, de mes 16 ans, en fait, et j'ai juste le souvenir de cette consommation d'alcool à l'époque qui n'était pas vraiment... on ne nous mettait pas vraiment au courant des choses. Quoi. Mmh. J'étais en Normandie, comme Zélie, en fait. J'ai un souvenir très précis du matin, lorsqu'on était au lycée. En fait, tous les matins, quand on allait prendre le café avant le lycée, il y avait plein de gens qui prenaient du Calvados. Et notamment aussi des collégiens qui prenaient, enfin, des terminales. Hein.
Oui.
Mais bon, on servait du Calvados sans problème et tout. Je crois qu'on vous a récupéré. Tout ça pour vous dire que...
Il y avait une espèce de banalisation, quoi.
Oui, puis que l'alcool est quand même, on le voit aujourd'hui par rapport à certains produits stupéfiants. Hein.
Oui.
L'alcool est quelque chose qui, est un... Pour moi, en tout cas aujourd'hui, un stupéfiant aussi dur et fort que bien d'autres, mais qu'on peut trouver n'importe où et puis qu'on peut, qu'on a franchisé.
Oui,
qu'on a...
C'est vrai que la question de la consommation chez les jeunes est différente. Hein, on consomme plus régulièrement en bar, mais de façon massive dans les soirées. Ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire consommer au moins 6 unités de verre en moins de 2 heures. En gros, l'équivalent de 6 verres de vin en moins de 2 heures.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que c'est une consommation dans les fêtes qui s'est banalisée.
Hein, oui.
On prend en général du vodka Red Bull ou du vodka avec du sucre pour faire passer le goût de l'alcool.
Oui.
Et l'idée, c'est de rester ivre. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, d'atteindre cet état d'ivresse en un minimum de temps, avec des conséquences quand même importantes sur les cerveaux adolescents qui est en plein développement. Et c'est vrai que les ivresses chez les jeunes et chez les adultes, c'est pas le même conséquence, notamment en termes de danger sur le cerveau.
Mmh. Mais lorsqu'on entendait Zélie dans la première partie de cette émission nous parler d'une consommation de 2 verres de vin à partir de 17h, lorsqu'elle rejoignait ses copines, d'une consommation de 2 verres de vin quotidien, on parle de quoi là exactement?
Ça existe. Alors l'idée, hein, c'est qu'effectivement, chez les moins de 18 ans et les moins de 16 ans, l'alcool n'est pas recommandé du tout.
Mm-hmm.
Mais encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce qu'on voit arriver à nos consultations, c'est plus des consommations intensives où on sort effectivement avec les copains et on prend des alcools, mais en quantité beaucoup plus importante. Et plus que le vin, c'est la bière, hein, la bière forte qui est prisée, et des alcools forts. Pour l'instant,
La bière forte, vous disiez, la bière, toutes ces nouvelles bières qui sont...
Par exemple, des bières qui sont
à 8 degrés,
dosées,
9 degrés.
Exactement.
Mm-hmm.
Donc l'idée, c'est de, effectivement, arriver à l'état d'ivresse le plus rapidement possible. Hein.
Mm-hmm.
C'est un peu ce que nous, on observe sur le terrain.
Mm-hmm. Alors justement, être jeune, c'est faire la fête, sortir. Y a-t-il un palier à ne pas franchir pour ne pas devenir dépendant?
Tout à fait. Pour moi, il y a un palier à impérativement éviter, c'est ce qu'on appelle le blackout.
Ouais.
Quand on commence à se souvenir de plus rien,
mm-hmm.
Quand on se souvient de plus rien, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance cérébrale, c'est-à-dire un dégât au niveau du cerveau. Hein. Et comme je dis souvent en prévention, le blackout chez les personnes qui consomment de l'alcool, c'est un peu le knockout du boxeur.
Ouais.
C'est-à-dire cet état où on perd son sein, il faut impérativement l'éviter parce que à ce stade-là et à cette concentration, on peut estimer qu'il y a des dommages qui, s'ils persistent et s'ils deviennent réguliers, peut entraîner des troubles et des dommages au niveau du cerveau.
Olivier Fan, vous restez avec nous en ligne. On va continuer à parler de ces jeunes qui sont de plus en plus consommateurs d'alcool et quels sont les dangers qu'ils encourent. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et que vous officiez au centre Pierre-Nicole, un centre de consultation pour jeunes consommateurs à Paris. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1.
Vous avez moins de 30 ans et vous avez pris l'habitude de consommer de l'alcool régulièrement et depuis longtemps, vous témoignez à l'antenne d'Europe 1 le 39-21. Je rappelle que nous vous lisons sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous avez la sensation que vous ne pouvez pas passer une bonne soirée sans alcool, sans de grandes quantités d'alcool, l'alcoolisme chez les jeunes. Venez nous raconter votre histoire, votre expérience de vie au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec le docteur Fan. Je rappelle, docteur, que vous êtes pédopsychiatre, mais que vous avez aussi écrit un ouvrage qui s'appelle « Jeux vidéo, cannabis ». Alcool, accompagner son ado. Et c'est assez incroyable que vous fassiez la comparaison, mais on pourra justement en parler après de ça. Y a-t-il des jeunes qui sont plus prédisposés que d'autres à devenir dépendants ?
Alors, c'est vrai qu'il y a, ne serait-ce que la sensibilité à l'alcool et aux états de l'ivresse. Hein, vous avez des adolescents qui supportent beaucoup mieux l'alcool que d'autres et qui, du coup, qui sont plus à même de sentir les effets positifs de l'ivresse. Hein, alors que chez certains, ça les rendra plutôt malades. Donc, il y a effectivement des différences en termes du métabolisme d'alcool dans le sang, et ça, c'est variable selon l'individu. Donc, effectivement, il y a des sensibilités individuelles. Je pense que la sensibilité, c'est la susceptibilité que l'alcool vous apporte quelque chose de positif, qui fait qu'effectivement, vous allez pouvoir vous y adonner sans modération.
Et justement, on parlait en introduction de ces consommations, du binge drinking, hein, par exemple, et vous évoquez les sensibilités différentes d'un ado à un autre. Mais quel effet l'alcool a sur la santé des jeunes ? Quels sont les risques pour ces jeunes de consommer autant d'alcool et tôt ?
Voilà. Alors le risque, vous savez, c'est qu'en fait, à cet âge, le cerveau est en plein développement. Mmh. Hein, et il y a quelque chose qui se développe, c'est les connexions entre les neurones. Ouais. On garde son même stock de neurones, mais le neurone connecte dans tous les sens. Et bien, l'alcool en grande quantité va altérer ces connexions, hein, notamment en ayant une atteinte, ce qu'on appelle la gaine de Bellin, c'est-à-dire la gaine qui va entourer les connexions et permettre une meilleure conduction entre les neurones. Donc c'est au niveau de la connectivité neuronale que l'alcool consommé de façon excessive avec des pics paralympathiques intracérébraux qui vont être dangereux pour l'adolescent. Et ce, particulièrement chez l'adolescent, parce que le cerveau est en plein développement, ce qui n'est pas le cas, moins le cas à l'âge adulte.
Alors, on l'a vu avec le témoignage de Zélie, certains boivent lorsqu'ils sont tristes. C'est aussi un mode de consommation qui est répandu chez les jeunes ?
Oui, c'est effectivement, on sait très bien que l'alcool à la fois est désinhibiteur et va moduler un petit peu l'humeur et un peu anesthésier des pensées devenues douloureuses. Donc ça, c'est pas une nouveauté, hein, où effectivement, on va consommer l'alcool pour essayer de régler son humeur. Mais en même temps, l'alcool est dépressogène, hein, ce qui fait que sur le long terme, ça va pas améliorer la dépression, mais plutôt l'aggraver.
Quand on est parent, quand doit-on commencer à s'alerter ?
Ben, je crois qu'il faut d'abord, au niveau des sorties et des soirées, hein, avoir un minimum de contrôle. Souvent, les accidents en voie, c'est les parents qui, chez les moins de 18 ans, voire les moins de 16 ans, laissent l'appartement, partent le week-end et rentrent ensuite. Hein. Je crois qu'il faut, l'alcool est consommé d'abord au niveau festif, et je crois que c'est d'abord encadrer les fêtes. Hein, c'est-à-dire être présent, assurer un passage pour éviter les débordements. C'est ce qu'on observe chez les jeunes. Et puis être attentif, hein, aux entrées et sorties de l'adolescent, de voir un petit peu son état. Mais je crois que le moment clé, c'est effectivement au moment des fêtes où il faut avoir un regard particulièrement attentif et bienveillant, évidemment.
Alors, docteur, je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez écrit, qui s'appelle « Jeux vidéo, cannabis, alcool, prévenir et accompagner son ado ». Je rappelle que vous officiez au centre Pierre-Nicole, un centre de consultation pour jeunes consommateurs à Paris. Restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous allons accueillir justement une maman qui a accompagné son fils dans sa descente aux enfers à cause de l'alcool. Elle s'appelle Anaïs.
Europe 1.
Nous parlons de la consommation excessive d'alcool chez les adolescents, chez les jeunes adultes. Vous avez conscience que vous risquez de mettre votre santé en danger. Vous êtes parent, vous êtes inquiet. Venez discuter avec Olivier Delacroix sur Europe 1 3921 pour nous appeler. Un verre quotidiennement ou vous êtes adepte du binge drinking, atteindre l'ivresse très rapidement, une nouvelle façon de consommer intense l'alcoolisme. Chez les jeunes, on en parle cet après-midi avec vous, Olivier Delacroix, au 3921.
Et nous avons libéré Olivier Fan, le docteur Olivier Fan, pédopsychiatre et qui officie dans un centre de consultation pour jeunes consommateurs à Paris. Et je le remercie pour les éclairages qu'il nous a apportés cet après-midi. Il est retourné dans son sous-sol. Donc merci à vous, docteur. Nous sommes maintenant en ligne avec Anaïs. Bonjour Anaïs, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci. Oui.
Bonjour. Anaïs, vous avez écrit l'ouvrage Nathanaël, disponible aux éditions Pygmalion. Dedans, vous racontez la descente aux enfers de votre fils à cause de l'alcool. À quel âge votre fils a-t-il commencé à boire ?
Alors ça, c'est la grande question dans le livre, je ne le sais pas, parce que je l'ai appris tard.
Oui.
Et maintenant, on arrive à en parler, justement, le livre a déclenché certaines choses chez lui, on a renoué un dialogue sur un sujet complètement tabou, et j'ai appris qu'il avait commencé à boire à l'adolescence, donc très très tôt,
il devait avoir 14 ans. Ce livre est sorti il y a combien de temps ?
L'année dernière, un an jour pour jour.
D'accord, donc vous avez commencé à en parler dernièrement, en fait.
Les deux, ça s'est fait par palier. Maintenant, ça fait, on va dire, 7 ans qu'il est sorti d'un risque de mort certaine et qu'il vit grâce à un médicament qu'il prend. Il n'est pas complètement sorti de l'alcool parce qu'il lui arrive de boire. La particularité de ce médicament, c'est le baclofène, je pense qu'on peut le dire. C'est que les gens qui sont malades, qui ont des problèmes d'alcool, ne sont pas obligés d'être complètement abstinents. Donc il n'est pas complètement abstinent. Pour moi, ce n'est pas l'idéal. Je suis toujours inquiète. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la situation vécue pendant à peu près une dizaine d'années. À savoir qu'il était vraiment à l'article de la mort, qu'il était désocialisé, qu'il ne travaillait plus et qu'il ne...
En tout cas, avec le traitement dont vous nous avez parlé, visiblement, cela a créé un équilibre qui fait que votre fils paraît être de retour à la vie.
Oui, absolument. Oui, complètement. Enfin, ça n'a... Il n'y a pas de comparaison. Il retravaille... il a un travail fixe, il évolue dans son travail, il fait du sport... Il revoit ses amis. Il a complètement renoué avec la vie.
Alors, vous dites que ce calvaire a duré presque 7 ans. On imagine ce que vous nous disiez, c'est-à-dire désocialisé, frôler la mort sans doute par des comportements à risque. Mais à partir de quel moment vous estimez que qu'il a plongé dans un alcoolisme profond, dur ? À partir de quel âge ?
Ben, moi, je pense que ça a commencé à être dur quand il a plus réussi à le cacher. Et c'est le problème avec l'alcool.
Oui.
C'est que le jour où la personne ne peut plus le cacher, c'est qu'elle ne contrôle plus rien et que c'est déjà installé, c'est profondément installé et que c'est très, très, très difficile à soigner.
Et justement, il avait quel âge à ce moment-là où il n'arrivait plus à vous le cacher ? 22 ans, d'accord.
22 ans, et il y a eu 2 ans de conflits, 2 ans absolument très difficiles, pendant lesquels je ne comprenais pas, je n'avais pas la bonne attitude, on s'affrontait tous les deux. Et un jour, j'ai appelé les alcooliques anonymes qui m'ont expliqué que c'était une maladie, que ça ne servait absolument à rien d'aller à l'affrontement.
Bien sûr.
Et de ce jour-là, ça a carrément absolument changé tout le panorama de nos relations.
C'est une maladie. C'est quelque chose que vous avez intégré tout de suite, ça, lorsque les alcooliques anonymes vous ont dit ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez compris et ça a tout changé ?
Absolument. Pour moi, ça a été un grand soulagement parce que je n'avais plus mon rôle de mère. C'était plus possible. C'était des crises répété, c'était sans solution. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis retrouvée à pouvoir agir, à pouvoir cadrer quelque chose là où je pensais n'avoir aucun pouvoir.
Et surtout, sans doute, supporter le poids que doit être le poids qu'une mère doit supporter. Pourquoi, mon fils, je dois avoir vous deviez avoir une sorte de culpabilité aussi par rapport à ça, je suppose.
Mais justement, c'est arrivé après, quand j'ai expliqué à mon fils, je lui ai dit, écoute, c'est une maladie, je suis d'accord, je serai à tes côtés chaque fois que tu seras dans une démarche thérapeutique. Et ensuite, on a enclenché un système d'hospitalisation où il me demandait, moi, de le faire hospitaliser parce que par moments, il avait peur pour lui-même. C'était quelque chose de très, très fort. Et il y a eu des entretiens avec des psychologues, avec des alcoologues. Et moi, chaque fois qu'il y a eu des points de réflexion, la culpabilité était énorme, absolument énorme.
En tout cas, pour tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui traversent ce type de problème avec leurs enfants, je conseille vivement votre ouvrage, Anaïs, parce qu'il fait référence à cette maladie qu'est l'addiction et l'alcool, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne. On peut mettre tout ça dans le même sac parce que les jeux vidéo aussi. Mais il n'y a pas une addiction plus grave que l'autre. Lorsqu'on finit par comprendre qu'une maladie atteint nos enfants, ça change tout. En tout cas, ça change beaucoup de choses dans la stratégie pour s'attaquer à cette maladie. Ça s'appelle Nathael. C'est disponible aux éditions Pygmalion. Dans quelques instants, nous prendrons en ligne Mylène qui a consulté un addictologue pour réduire sa consommation d'alcool.
Il y a Gerbi Céalia, j'espère que je l'ai pas mal prononcé, qui nous écrit sur Facebook, j'ai 27 ans. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool car étant plus jeune, j'ai assisté à des scènes de beuverie qui m'ont complètement choquée. J'assume totalement le fait de ne pas boire, mais je suis vue dans la société comme un ovni. Je suis obligée de me justifier dès que je demande un jus de fruits.
Europe 1.
Vous avez moins de 30 ans, vous avez pris l'habitude de consommer de l'alcool régulièrement, de grandes quantités. On vous écoute au 39-21. Vous témoignez sur la page Facebook, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. Les jeunes et l'alcool, où s'arrête la fête? Où commence l'alcoolisme? Olivier Delacroix vous écoute sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Mylène. Bonjour Mylène, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Mylène?
Alors, j'ai 33 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, Mylène, on va en venir directement au fait de votre consultation à un addictologue pour réduire votre consommation d'alcool. Puisque, en fait, si j'ai bien compris votre histoire, vous avez bu de l'alcool assez jeune, finalement.
Ouais, assez jeune, plutôt au début, alors au cours de soirée, plutôt très vite, beaucoup.
Ouais.
Par contre, bon, c'était rythmé quand même par, les cours, donc c'était pas tout le temps, c'était pas tous les jours. Mais il se trouve que, en fait, moi j'avais une certaine sensibilité, en plus je cochais un peu toutes les cases avec, dans la famille, des cas d'alcoolisme, parce que malheureusement, parfois, on tire aussi la loterie génétique.
Ouais.
Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai rencontré des grandes difficultés dans ma vie et que... j'ai commencé à boire plus, d'autant que je vivais dans le sud de la France et que je suis arrivée à Paris il y a 7 ans. Et en fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est assez déstabilisant. C'est une ville qui est grande, on vit dans des petits espaces, les salaires sont bas. C'est un petit peu la désillusion aussi de pas y arriver aussi vite que ce qu'on pensait. Et j'ai rencontré des difficultés personnelles assez fortes. Et il se trouve qu'à un moment donné, ma vie a commencé à se mettre en place, a commencé à aller mieux. Mais sauf que ma consommation d'alcool restait quand même très forte. Et en fait, moi, ça faisait longtemps que je sentais que j'avais un problème. Et j'en parlais assez facilement à ma famille, à mes amis. Et jusqu'au jour où il y a eu la goutte, pas d'eau, mais du coup la goutte d'alcool qui a fait déborder le vase. Et j'ai décidé d'aller consulter et ça m'a fait énormément de bien.
C'est quoi, pardonnez-moi, cette goutte qui a fait déborder le vase, comme vous dites?
Je pense que ça a dû être la gueule de bois de trop. Je pense que ça a dû être le retard de trop au bureau. Cette espèce de... Enfin, c'est pas une vie, en fait, de se réveiller un jour sur deux avec la gueule de bois, et puis un jour sur deux, non, parce que quand même, je buvais pas tous les jours, et je continue d'ailleurs de pas boire tous les jours. Et moi, je savais plus où j'en étais par rapport à ça. Et puis, déjà, j'avais, passé une passe difficile, et puis je me réveille, et je me dis, ah bah mince, j'ai ce problème-là qui est quand même gros. Là, je me suis sentie un peu démunie.
Est-ce que c'est ce qui vous a sauvé, finalement, d'aller voir cet addictologue?
En tout cas, ça m'a permis déjà de déculpabiliser énormément. Ça reste une maladie et en fait c'est difficile à vivre. Moi aujourd'hui, si j'en parle, et j'en parle avec mon vrai prénom à visage découvert, j'en parle à mes amis, j'en parle autour de moi, c'est qu'il faut vraiment se décomplexer, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mode qui a fait que plus jeune c'était vachement bien de boire et c'était bien vu socialement. Bah ouais, mais sauf qu'en fait, plus tard, et j'ai énormément de gens autour de moi. Moi, le fait de leur en parler, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais tu sais, moi aussi, je réfléchis à ma consommation d'alcool. En fait, je trouve que c'est trop. » Je dis « Bah écoute, tu peux te faire aider. Voilà, il y a des solutions qui existent. » Moi, je me suis fait suivre toutes les semaines pendant 6 mois. Et on compte, hein. Alors, combien de verres, à quelle occasion? Et puis, en fait, petit à petit, alors moi, j'en étais pas arrivée à un stade où alors je bois pas le midi, je bois pas tous les jours.
Non, mais vous avez dit quelque chose d'assez important tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'êtes entendu dire, mais vous m'avez dit ma vie s'est mise à aller bien. Mais finalement, vous avez dit ma vie s'est mise à aller bien parce que finalement, avec l'alcool, ça comblait des espaces. On a eu l'impression que vous étiez en train de nous dire ça.
Mais oui, je pense que c'est important de le dire. Je pense que quand on se sent malheureux, quand on se sent stressé, quand on est fatigué, c'est le cercle vicieux et c'est le moyen de décompression assez facile, qui est accessible, qui n'est pas trop cher en plus, et qui est un peu socialement accepté.
En tout cas, chez cet addictologue, vous avez appris que c'était une maladie. Hein. Ça fait vraiment, Mylène... écho au témoignage d'Anaïs, cette maman qui a écrit ce livre dont nous parlions tout à l'heure et qui a découvert elle aussi chez les alcooliques anonymes, mais on peut le découvrir chez un addictologue ou chez des alcooliques anonymes, que c'est une addiction et que c'est une maladie et que la société porte un regard encore dur sur ces personnes qui consomment de l'alcool, qu'elles soient jeunes finalement ou moins jeunes. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Mylène. Merci aussi au docteur Olivier Fan de nous avoir apporté ces éclairages. Merci à Anaïs et à Zélie. C'est la fin de cette émission. Il est nécessaire de rappeler que l'alcool est la première cause de mortalité en France chez les 15-30 ans. On l'a vu sous couvert d'être festif. L'alcool peut devenir une addiction très nocive. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour un verre entre amis. Une consommation régulière doit vous alerter car cela peut trahir une souffrance. N'hésitez pas à appeler Alcool Info, service au 09 80 98 09 30 pour vous faire accompagner, pour en parler. Je pense tout à l'heure à Zélie qui nous parlait de ses 2 petits verres de vin par jour. Est-ce que c'est grave, pas grave? Tout dépend comment il les consomme. En tout cas, à Alcool Info Service, on pourra vous répondre à ce type de questions. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de ceux qui sont là pour vous répondre.
Et vous pouvez continuer à discuter sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à échanger, à témoigner via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et on vous retrouve sur Instagram, Olivier, hein, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du travail en famille. Créer une société avec son conjoint, travailler dans le restaurant de ses parents, reprendre la société de son beau-père, travailler en famille, c'est pour le meilleur ou pour le pire? Alors voilà, de belles histoires comme de moins belles. Si vous travaillez avec un ou plusieurs membres de votre famille, si vous regrettez d'avoir travaillé avec votre conjoint ou votre conjointe, je pense à toutes ces femmes qui ont travaillé aux côtés de leur mari pendant des années et qui n'étaient pas déclarées, ça pose problème. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Nous serons là pour vous accueillir et puis on pourra en parler dès 15h demain. J'étais ravi de passer cette heure avec vous, ma chère Ambline. Maintenant, je vous laisse avec l'excellente Laurence Boccolini sur Europe 1. Qui va accueillir qui aujourd'hui?
Vous allez rester, je pense.
Là, vous allez rester, Olivier.
Mais qui se cache derrière cette porte?
Elle est magnifique. Hein. C'est Virginie Ledoyen.
Ah, Virginie Ledoyen, ouais. Que j'ai aperçue hier chez Laurent Ruquier dans Les Enfants de la télé, imaginez-vous.
Oui, voilà.
En train de chanter avec le chanteur d'Indochine.
Oui,
vous allez chanter encore ou pas?
On sait pas. On va parler de Rémi sans famille,
bon,
c'est moins gay.
Écoutez, vous me dites et puis je reviendrai faire un tour. Alors.
C'est plus, voilà.
Une bonne émission, les filles.
Merci, à demain.
À demain. Europe 1.